Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonjour à tous, bienvenue dans une semaine formidable. Autour de la table, Eric Figuère, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et puis quelques nouvelles voix que vous allez découvrir aujourd'hui. Nous sommes avec Valérien Hummel, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Président du Point Boot SC et sélectionneur des U16 calédoniens, c'est bien ça?
C'est ça.
Je ne dis pas de bêtises pour l'instant, tout va bien. À ma droite, Antoine Pereira de Carvalho, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes joueur de l'AS Magenta.
C'est bien
défenseur
ça.
Défenseur latéral. Pas de bêtises non plus.
Pas de bêtises.
Tout est bon. Et puis Bastien Antoine, qui est fondateur du Média Foot NC. Vous êtes spécialiste du foot local. Aujourd'hui, on va devoir parler national, international et surtout des championnats de France qui ont repris. Ligue 1, pas encore, mais bientôt. Ligue 2, Ligue 3, c'était ce week-end. Un petit mot sur cette Ligue 3 pour commencer un nouveau championnat national professionnel. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Est-ce que c'est bon de lancer un nouveau championnat professionnel? Je me tourne vers vous, Bastien Antoine, pour commencer.
Oh, moi, je pense que oui, effectivement, c'est toujours bon. Et puis, ça peut donner de l'espoir à nos jeunes calédoniens, même si la dynamique aujourd'hui va pour nos jeunes calédoniens et plus d'essayer de devenir professionnels dans l'Océanie. Mais mine de rien, Ligue 3, c'est le troisième niveau français et nos meilleurs joueurs jouent en cinquième ou voire quatrième niveau. Donc ça donne une opportunité de plus pour devenir footballeur professionnel. Donc je pense que c'est toujours assez intéressant. Et puis en plus, ça va être médiatisé, donc ça va être on va pouvoir suivre un petit peu plus ce qui se passe. Ça va être, moi, je trouve ça intéressant, personnellement.
Ouais, des rencontres qui seront médiatisées. Eric Figuère, 3e division, ça permet à des clubs qui n'avaient peut-être pas forcément l'ambition d'être en Ligue 2 de pouvoir prétendre à ce niveau-là.
C'est forcément une bonne chose. Ça donne d'abord du travail à beaucoup de footballeurs, parce qu'il ne faut pas oublier que si c'est une passion, c'est aussi un métier pour beaucoup. Certains veulent en faire leur métier et d'autres tentent de poursuivre l'aventure professionnelle, donc c'est forcément une bonne chose. Ça va être médiatisé, donc ça c'est bien aussi. La seule crainte dans ces cas-là, c'est que les modèles économiques ne soient pas viables et que beaucoup y laissent des plumes. Donc on va pas pour l'instant voir le mauvais côté des choses. C'est une très bonne chose. Attendons de voir quand va démarrer le championnat et puis de voir un petit peu quel va être le niveau de jeu. Parce que c'est aussi important. Si on veut que ça plaise, si on veut que ce soit intéressant, il faut que le niveau de jeu soit bon.
C'est ça, il faut laisser un petit peu de journée. Là, voilà, la première s'est jouée ce week-end, il y a eu quelques résultats.
On verra
si
beaucoup d'anciens joueurs, des joueurs un peu sur la fin sont présents. On va voir ce que ça va donner, ça va être assez intéressant.
On peut citer du côté de Cannes, Sébastien Corchia, un ancien joueur français. Valérie Hummel, cette Ligue 3, qu'est-ce qu'on en pense?
Ouais, ça peut être qu'une bonne chose. Hein. Moi, je pense surtout aux jeunes joueurs qui n'arrivent pas à finir pro quand il n'y avait que la Ligue 1 et la Ligue 2. Ça peut être encore un tremplin pour finir professionnel. Une accession beaucoup peut-être plus simple pour nos joueurs qui sont issus du terroir quand ils vont en métropole. Et dans cette liste, il y a beaucoup d'anciennes équipes professionnelles. Je pense à Abbassia, je pense à Amiens, Valenciennes, etc. Qui leur permettent de garder ce statut professionnel, puisqu'au bout d'un certain temps, on perd le statut professionnel. Donc forcément, il y a aussi les centres de formation qui prennent un coup, etc. Donc ça peut être qu'une bonne chose. Et en plus, donc, cette médiatisation qui permettra aussi de garder un système économique tenter que ce soit sérieux, viable sur le long terme.
Alors forcément, on parle de retombées financières.
Pardon, c'est vrai que ça fait du bien de revoir certains clubs, certains noms qui ont disparu un peu de la circulation malheureusement. Et puis un petit regard sur Versailles. Je pense que vous avez tous vu sans doute sur Canal+, les documentaires, la série qui est sur ce club. Exact. C'est un club que je connais très bien. Donc ça va être vraiment intéressant.
Justement, vous avez commencé à parler des clubs, Versailles, Bastia, Valenciennes. Antoine Pereira de Carvalho, quand on regarde cette liste, c'est 18 équipes qui seront donc en Ligue 3 cette saison. Est-ce qu'on a déjà des petites idées sur ce qui pourrait se passer?
Ah, c'est vrai que sur cette Ligue 3, on a quand même des équipes des anciennes équipes de Ligue 1. Donc on imagine que ça va être ces équipes-là qui joueront le haut de tableau. Après, c'est vrai que moi j'ai vu l'effectif de l'AS Cannes avec des anciens joueurs de Ligue 1. Donc on a cité Corchia, il y a Scherendeuil qui avait joué aussi à Angers. Donc non, ça va être une bonne ligue. Ça va être intéressant. Après, voilà, je connais pas vraiment toutes les autres équipes, mais ça peut être une ligue très intéressante.
Quand on regarde, il y a quand même Caen, entraîné par un certain Gaël Clichy, il me semble, dont la famille Mbappé est aux commandes. C'est ce genre d'équipe-là qui a les ambitions, Bastien Antoine, de remonter vite en Ligue 2.
Ah, mais j'imagine. Mais après, c'est déjà bizarre que cette équipe-là soit en Ligue 3. Donc, c'est-à-dire que tout doit pas forcément tourner très très rond là-bas. Et je pense qu'ils auront beaucoup de concurrence. Donc, tant que tout ne tourne pas rond, ils arriveront pas à remonter. Et au pire, ils descendront un petit peu. Ils continueront à descendre un petit peu comme ce qui se passe à Bordeaux. Par contre, moi, dans cette Ligue 3, je note la présence de Thionville. Thionville, c'est un club qu'en Calédonie, on connaît bien parce que c'est un club qui était venu jouer contre Yengen en Coupe de France il y a 3-4 ans. À l'époque, Thionville jouait en National 3, si je ne me trompe pas.
Cinquième division.
Et c'est un club qui avait été assez impressionnant au Stade Noumadeli, qui avait gagné 4-0 contre Yengen Sport en Coupe de France. Et ils ont continué, ils étaient déjà sur deux montées consécutives, et ils ont continué à monter. Et je crois que lors de la première journée là, de Ligue 3 ce week-end, ils ont encore gagné 3-0. Donc c'est vraiment un club.
Victoire 3-0 à Aubagne.
Voilà, c'est un club qui est dans l'est de la France, il me semble, et qui construit bien. Donc c'est beau de voir des clubs comme ça qui construisent pas à pas et qui arrivent jusqu'à la Ligue 3, c'est bien.
C'est vrai que dans cette Ligue 3, on voit pas mal de clubs qu'on nomme de surprise dans les Coupes de France. En général, on voit des clubs qui arrivent à titiller les équipes de Ligue 1 assez régulièrement. Eric Figuère,
c'est vrai, mais moi je suis quand même un peu inquiet sur le modèle économique. Moi, ça me fait un peu peur, une saison entière avec les déplacements, avec le coût qu'une saison entière génère. J'espère me tromper et en tous les cas ne avoir une fausse mauvaise impression, mais ça m'inquiète un peu quand même.
La fédération a quand même annoncé suivre ça de très près, forcément. Il y a les retombées médiatiques.
Ils suivent de très près beaucoup de choses et c'est pas pour autant qu'ils en font de bonnes. Hein. Donc, wait and see, comme on dit.
Valérie Hummel, sur cette Ligue 3, il y a des équipes...
Moi, c'est vrai qu'à l'image d'un Thionville qui était venu au pays il y a quelques années de ça, c'est vrai que de voir des Paris 13 Atlético ou Versailles, parce qu'on a pu suivre un petit peu, que ce soit sur Netflix ou même sur YouTube, des épisodes de leur épopée pour monter, pour accéder à cette Ligue 3. On a aussi encore des clubs comme Cannes, comme Rouen, comme Amiens, etc., pensionnaire depuis pas mal d'années de Ligue 2, donc c'est quand même un championnat qui, à mon sens, sera quand même assez compétitif, proportion gardée, avec la Ligue 1, la Ligue 2, bien évidemment. Mais je pense que ça peut être intéressant, mais effectivement, comme le disait Eric, il faudra vraiment s'attacher à regarder un petit peu le système économique, et en espérant que des clubs comme Bastia, qui sont souvent relégués, ou enfin prennent des amendes du moins par rapport à leur mauvaise gestion financière, ne tombent pas dans les méandres du football français, quoi.
On surveillera donc les retombées financières et les problèmes d'argent des clubs.
Les joueurs qui sont toujours en attente, les joueurs qui sont en fin de saison en recherche de clubs, j'espère que ça va leur fournir, je parlais tout à l'heure d'avoir du travail, mais j'espère que ça va leur fournir l'opportunité de se montrer, et même si ça n'est qu'en Ligue 3, de pouvoir se montrer justement sur les échelons supérieurs, faire bénéficier bien sûr les clubs de leurs expériences, mais pouvoir se montrer un petit peu puis travailler, c'est important.
Et donc dans cette Ligue 3 qui s'appelle Ligue 3 Betclic, du coup, il y a une nouveauté qui a été introduite par la fédération, c'est le Challenge VAR. Alors il n'y aura pas de VAR comme en Ligue 1, comme en Ligue 2, comme on a pu la connaître dans d'autres championnats. Ce sera un challenge que les coachs pourront demander à l'arbitre. Il y aura deux challenges par match pour demander un carton rouge sur un pénalty, sur une erreur d'identité d'un joueur. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouveauté, le Challenge VAR, Antoine Pereira de Carlo? Vous qui jouez au foot, vous trouvez que c'est une bonne chose sur le terrain de pouvoir à tout moment demander un changement de décision de l'arbitre?
Oui, pour moi c'est une bonne chose. C'est une règle qui est tirée du basket. On a pu le voir lors des playoffs là, un peu, quand on regardait un peu plus la NBA. Pour moi c'est une bonne chose. Ça va éviter d'avoir aussi des matchs à rallonge avec des stops intempestifs de la VAR. Là au moins on va avoir deux maximum, voire trois si le challenge est positif pour l'entraîneur qui fera la demande. Mais ça peut être une bonne chose pour équilibrer les mauvaises décisions, etc.
C'est un test, hein, Bastien-Antoine. On essaye, on voit ce que ça donne, et puis après on essaie peut-être de le développer sur les autres championnats.
Non, c'est intéressant. Après, je ne sais pas si c'est par manque de moyens ou si c'est une volonté de
l'instaurer vraiment.
De limiter le nombre d'appels à la VAR, parce que c'est vrai que la VAR ça enlève quand même une certaine fluidité au jeu. Enfin honnêtement, c'est sûr que on y trouve des points positifs, parce qu'on a l'impression de régler des problèmes, et on a l'impression de régler des décisions qui auraient pu être difficiles sans la VAR, mais j'ai l'impression parfois qu'on s'en rajoute aussi. C'est une bonne chose que ce soit que quelques fois par match et pas sur chaque action. Non, on a l'impression que chaque but On peut rechercher la petite faute. Ça perd un petit peu de son charme, donc je pense que c'est bien.
Éric Figuer.
Bah, la VAR au départ était une bonne idée, hein, et puis on voit que finalement ça génère beaucoup plus, au moins autant de problèmes qu'avant. Donc ça évite effectivement certaines injustices, mais ça en crée aussi tellement d'autres, parce que malheureusement le système est incomplet. On l'a vu à la Coupe du Monde, mais on le voit dans tous les championnats. Donc oui, l'idée de base est plutôt intéressante, mais ça va... Et là, pour le coup, je m'avance un peu, mais... Et tant mieux si je me trompe plutôt, mais ça va générer d'autres problèmes, c'est évident.
Voilà, est-ce qu'on a déjà une idée de ce que ça pourrait générer, des entraîneurs qui sont trop présents? C'est ce qu'on leur reproche aussi souvent.
Ça peut hacher, effectivement, comme disait Bastien, ça peut hacher bien évidemment le jeu, mais ça c'est le cas de la VAR depuis qu'elle existe. Mais ça va être pour certaines actions, pas pour d'autres. Ça va être intéressant à certains moments. Les clubs vont l'utiliser à certains moments et pas à d'autres.
Alors, c'est pour quatre situations précises. Les buts, ouais. Les cartons rouges, les pénaltys et les erreurs d'identité d'un joueur. Pas plus.
Ouais. Bon, je pense que les arbitres étaient capables de faire tout ça avant. Et ils le faisaient globalement plutôt bien, d'ailleurs, même si on se plaint toujours de l'arbitrage. Parce que quand on est joueur ou supporter, il y a forcément toujours des choses qui ne vont pas et on se sent souvent justement ou injustement floué. Mais les arbitres, il faut en mettre un petit peu plus, des arbitres. Voilà. Et puis continuer à bien les former et puis leur laisser la possibilité de pas être sur eux en permanence. Il vaudrait mieux éduquer les joueurs. Voilà. Alors pour le coup, ça fait beaucoup plus de monde à éduquer, hein, mais éduquer les joueurs, ce serait pour moi beaucoup plus important. Et on a vu tous ces comportements pendant la Coupe du Monde. Là, ça saute tellement aux yeux que voilà, c'est facile à voir. Donc éduquons les joueurs dès le plus jeune âge. On a des formateurs, des éducateurs ici, des jeunes joueurs. Voilà. Et puis que les joueurs professionnels arrêtent de montrer le mauvais exemple. Et puis je pense que les choses se passeraient beaucoup mieux. Après, l'arbitrage, c'est difficile. On les critique souvent et ça m'arrive aussi. Mais si on les laisse un petit peu tranquilles, si on arrête de leur sauter dessus à la moindre occasion, si on arrête d'être agressif, je pense que les choses pourraient beaucoup mieux se passer. On n'aurait pas besoin de la VAR.
C'était un coup de gueule avant l'heure, on l'aura
compris.
Oui,
l'autre coup de gueule qui vient restera dans le football, c'est bien.
Valérian Hummel, sur cette décision, vous qui êtes entraîneur, je rappelle, sélectionneur des U16 calédoniens, en tant qu'entraîneur, comment vous sentez cette nouveauté? Comment vous pourriez l'apprivoiser?
Ben écoute, la VAR de base partait d'une bonne idée. Maintenant, on voit que ça n'a pas tout réglé dans le football, que malgré tout, malgré la possibilité de revoir toutes les images au ralenti, dans tous les sens, etc., il y a toujours quelque chose à dire, donc que ce soit au niveau de l'arbitrage ou des comportements des joueurs. C'est une bonne chose sur les situations que tu as évoquées tout à l'heure. Maintenant, il y aura toujours quelque chose à redire. Encore une fois, on parle de formation, d'arbitrage, etc. Moi, je pense qu'effectivement, peut-être rajouter un arbitre sur chaque ligne de sortie de but, ça serait déjà plus intéressant pour voir tout ce qui se passe dans les surfaces de réparation. Maintenant, oui.
Ça a été testé, ça, il me semble, il y a quelques années, où des arbitres étaient derrière la surface, derrière les cages.
C'est ça. Donc, pourquoi ça n'a pas été reconduit, je ne sais pas. Mais c'est pareil, à l'image du rugby, pourquoi pas aussi équiper dans tous les matchs de football, de micro, l'arbitre, afin de pouvoir voir, parce que ça passe par là aussi l'éducation, c'est pouvoir échanger avec les joueurs sur les fautes qu'ils ont fait, pourquoi il y a eu faute, etc. Donc oui, la VAR, c'est un très bon outil. Maintenant, il y aura toujours quelque chose à redire là-dessus.
Des choses à redire sur les VAR à suivre, forcément, hein, sur les premières journées de championnat, on pourra analyser ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé. Avant de passer à la Ligue 2, un petit mot du coup sur l'équipe que vous voyez terminer en tête de cette Ligue 3 à la fin de la saison. Voilà, on gardera l'enregistrement et on le rediffusera à la fin si vous êtes trompé ou pas. Bastien-Antoine ?
Alors là, il faut vraiment être fort. Allez, si je dois me lancer...
On ne mettra pas d'argent. Hein.
Ouais, non, là, je ne mettrai pas d'argent. Oh, c'est vraiment très dur. Allez, je vais suivre Thionville, on ne sait jamais, qui continue leur très beau parcours.
Antoine Pereira de Carvalho.
Très dur. J'ai vu que Bastia avait essuyé un revers sur la première journée. Je vais miser sur une équipe de Ligue 1, on va dire Amiens.
Amiens.
Une ancienne équipe de Ligue 1, ouais.
Valérian Hummel.
Alors moi, j'aimerais déjà demander à Betclic si on met des paris, est-ce qu'ils peuvent nous faire des réductions? Ça serait pas mal. Non, après, moi, ce sera plus un club de cœur, parce que après le Paris Saint-Germain, c'est surtout Bastia qui m'a fait vraiment kiffer, et pour y avoir passé pas mal d'années, j'espère qu'ils vont pouvoir remonter.
On termine avec vous, Éric Figuer.
Moi, je verrai quand. Caen, parce que d'abord, ils ont fait une bonne entame, et puis repris par, en partie par effectivement la famille Mbappé. Donc j'ai envie d'y croire un petit peu. Puis c'est un club qui, comme 4 ou 5 autres, mériterait, parce que toutes les équipes qui se donnent mériteraient aussi de monter, mais c'est des clubs un peu emblématiques. Et moi, j'aime bien que les clubs historiques soient dans les divisions les plus importantes. Alors c'est vrai qu'on aime bien aussi avoir quelques surprises, et puis c'est normal que les, entre guillemets, petits clubs puissent rêver. Mais c'est vrai que pour l'intérêt des championnats, pour l'intérêt des différentes ligues, on a besoin d'avoir des clubs historiques. C'est mon avis, en tous les cas, au plus près du plus haut niveau.
Et la transition est toute trouvée, puisque des clubs historiques en Ligue 2, il y en a beaucoup cette année. C'est une Ligue 2 impressionnante à voir, hein, franchement, entre Saint-Etienne, Nantes, Metz, Montpellier. On peut citer encore Guingamp, Sochaux, pas mal de belles équipes qui ont, pour certaines, leur place en Ligue 1, Valérie Hamel, non ?
Ah oui, hein, c'est un championnat qui, sur le papier, se veut vraiment très intéressant. Maintenant, encore une fois, le gap de l'argent entre la Ligue 2 et la Ligue 1 est très conséquent. Donc souvent, ces clubs-là font le yo-yo, hein, l'année suivante. J'écoutais aussi à la radio que cette Ligue 2 se veut vraiment très compétitive sur le plan footballistique, même au niveau européen. Je ne suis pas sûr qu'elle soit au niveau d'une Championship ou d'une Bouli 2 par exemple, ou même d'une Liga 2, mais c'est vrai que sur le papier il y a bon nombre d'anciens pensionnaires de Ligue 1, donc effectivement ça peut être que plus intéressant.
Est-ce que sur ce championnat, on n'a pas plus envie un week-end de regarder un Saint-Etienne Nantes, j'en sais rien, Saint-Etienne Montpellier, plutôt qu'un Le Havre Le Mans qui est en Ligue 1?
Pour moi, c'est à peu près du même niveau, hein, dans le sens intérêt, je veux dire, hein, parce que en termes footballistiques, oui, ça se défend, ça joue avec leurs propres armes, etc. Maintenant, il y a un gap entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Alors oui, pour la montée, ça peut être intéressant de regarder les matchs de Ligue 2. Certainement que Saint-Etienne vont jouer la montée puisqu'ils sont bien renforcés, etc. Mais moi, personnellement, la Ligue 2 m'intéresse pas plus que ça.
Mais vous n'êtes pas le seul, je pense. Mais c'est vrai que l'intérêt de la Ligue 2, Eric Fillière...
Il faut reconnaître que le niveau affiché n'est pas très très bon. Ce n'est pas très très intéressant, en fait, de regarder ces clubs-là. Moi, je préfère encore regarder une Ligue 3 avec probablement un jeu qui va être différent, qui va être beaucoup plus justement axé sur le jeu, que la Ligue 2, où finalement tout le monde tire les fesses, où on a des anciens clubs de Ligue 1 qui connaissent des difficultés depuis des années, voire des décennies, des clubs qui n'ont pas encore le potentiel ni les moyens financiers pour monter en Ligue 1. Donc finalement, cette espèce d'entre-deux ne donne en général peu de spectacles. Alors on espère qu'il y a une ou deux équipes comme Saint-Etienne ou comme d'autres qui vont là être capables d'avoir un niveau de jeu supérieur pour nous montrer des matchs intéressants. On l'espère, mais la Ligue 2, c'est toujours un peu compliqué, quoi.
Saint-Etienne qui est allé gagner 3-0 à Sochaux pour le premier match. Sochaux, un ancien club historique aussi, hein, qui est désormais en Ligue 2. Bastien Antoine, comment on la juge, cette Ligue 2, d'accord avec les propos de Valérian, c'est pas forcément très intéressant?
Bon, je sais pas si c'est pas très intéressant, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'on a envie de regarder le plus tout de suite. Après, chaque année, il y a toujours une ou deux équipes qui développent du beau jeu. Et très souvent, c'est ces équipes-là qui arrivent à monter, à l'image de Troyes, qui malheureusement, ensuite, après, en Ligue 1, n'arrivent pas à faire le poids. Mais dès que c'est marrant, parce que c'est vrai qu'on a l'image de la Ligue 2 d'une équipe, d'un championnat qui est très besogneux, où ça va jouer très physique, où il va pas y avoir beaucoup de jeux. Et à chaque fois, dès qu'il y a des équipes qui osent un petit peu jouer, souvent, elles arrivent à tirer leur épingle du jeu. Donc peut-être qu'il faudra attendre quelques journées et puis cibler les équipes qui jouent au ballon.
On pense, c'est vrai que l'offre aujourd'hui télévisuelle est tellement importante, notamment grâce à Canal, qui nous montre les différents championnats étrangers, que c'est difficile de s'intéresser et de regarder éventuellement des matchs comme ceux-là. C'est bien quand on est résident d'une de ces villes, qui permet de suivre évidemment son club, mais qui permet aussi de voir passer les autres équipes, et les autres notamment anciens clubs de Ligue 1. Après, ça va être difficile, faut pas se raconter l'histoire.
On pense quand même à la saison dernière, Le Mans qui monte en Ligue 1, Rodez qui fait une saison plutôt bonne saison. Antoine Perra de Carvieux, sur cette Ligue 2, est-ce que d'ores et déjà il y a des équipes qui semblent être au-dessus des autres? On parle de Saint-Etienne, mais est-ce qu'il y en a d'autres?
Oui, Saint-Etienne qui a gagné son premier match 3-0, 3 buts en 30 minutes. Ils se lancent bien sur ce championnat. Je pense que ça va être une équipe qui va clairement jouer la montée cette année. Moi, une équipe qui m'a un peu surpris, c'est Dunkerque. Je sais que déjà l'année dernière, ils avaient fait une très bonne saison.
Avec une recrue, Steven Zonzi, il me semble, il y a quelques mois pour Dunkerque.
Et là, sur leur premier match contre Grenoble, j'ai trouvé que l'équipe était vraiment bien rodée, tous en forme, et puis bah, le résultat parle pour lui-même.
4-2.
Victoire 4-2. Donc voilà, je pense que oui, Saint-Etienne, Dunkerque, ce serait sûrement les deux équipes qui joueront la montée cette saison.
Ouais, une question, Metz peut-être en plus.
Metz aussi, effectivement, qui fait souvent yo-yo en plus entre Ligue 1.
C'est ce que vous disiez. Metz a la capacité, les qualités pour monter, mais les capacités, les qualités pour redescendre.
Moi, ce que je regarde quand je vois ces clubs et que je les imagine monter, c'est l'organisation du club. C'est la. Pas seulement la santé financière, mais la structure. Est-ce que c'est un club qui est bien géré depuis longtemps? Alors évidemment, c'est des clubs qui sont descendus, mais pas forcément parce qu'ils étaient mal gérés. On voit par exemple Montpellier, là pour le coup c'est un petit peu différent. Quand les clubs comme ça, comme Nantes bien aussi, évidemment, alors on va pas critiquer la famille Kita parce qu'elle a fait tellement et elle donne tellement pour le club que bon, c'est toujours difficile de lui sauter dessus. Mais néanmoins, on voit bien que quand on a, alors je vais dire une bêtise, c'est pas le bon chiffre, mais quand on a 16 entraîneurs en 15 saisons,
c'est pas loin
c'est à peu près de ce niveau-là, hein, globalement, peut-être une vingtaine. Bah forcément, on se pose des questions sur la gestion, sur l'idée, l'idée qui se font d'un club de foot
Originaire de la région nantaise, non,
Antoine
de
Carvalho,
Nantes en Ligue 2, ça va y rester.
Je pense que cette saison, ça y restera. Il y a pas mal de problèmes à gérer dans le club déjà.
Depuis quelques années, effectivement.
Depuis quelques années, là, j'ai vu quelques infos comme quoi le club serait en instance de vente. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à refaire. On a encore quelques très bons joueurs, mais le mercato n'est pas fini, donc à mon avis il y aura pas mal de départs. Première défaite en plus pour le premier match de Ligue 2. C'était un match qui était quand même intéressant à voir.
On a vu
à la maison, c'est vrai.
Contre
sans supporter par contre. Mais non, je pense que cette année on y restera. Mais j'espère que l'année prochaine, ce sera une montée en Ligue 1.
Même question du coup pour la Ligue 2 que pour la Ligue 3. Votre champion, est-ce qu'on est unanime? Saint-Etienne va terminer en tête? Valérie Hummel?
Ouais, il y a de fortes chances, même si Metz ont aussi un bel effectif. D'ailleurs, je crois qu'ils ont recruté un attaquant qui vient de Belgique, un petit attaquant d'1m94. Très peu.
Ça bouge mieux les grands maintenant.
Ouais, c'est ça, ils sont très mobiles. Donc non, et puis j'ai vu quelques rediffusions, enfin quelques extraits du match. Ouais, ça a l'air pas mal. Mais ouais, je pense que Saint-Etienne seront largement devant, quoi.
Eric Figuer.
Oui, Saint-Etienne bien sûr, et puis je mettrai une petite pièce sur le Red Star.
Allez.
Voilà, ça fait quelques années qui sont tout prêts, qui montrent les dents. Je me dis que cette année, ça va peut-être être la bonne.
Bastien Antoine.
Ouais, moi j'aimerais bien que les gros clubs remontent un petit peu, surtout les clubs de grandes métropoles en métropole. Un club comme Montpellier, j'aimerais bien qu'il arrive à repartir de l'avant, surtout que je pense que ces clubs-là, ils doivent avoir plein de bons jeunes dans leur centre de formation. Donc je pense que Montpellier, tôt ou tard, ils vont réussir à repartir de l'avant. Est-ce que ça sera cette année? Je ne sais pas. Je vois plus Montpellier réussir cette année à se relever que le FC Nantes, effectivement. Parce que le FC Nantes,
c'est toujours surprenant de voir, par rapport à ce que tu dis, c'est toujours surprenant de voir à quel point le niveau des jeunes joueurs français est élevé. Parce qu'on va dans n'importe lequel de ces clubs, n'importe lequel des clubs, même dans les divisions inférieures, et le niveau est vraiment très très bon. Les joueurs sont vraiment de très très grande qualité, et la formation à la française, on sait qu'elle est renommée, donc ça pose pas de difficultés. Donc j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi les clubs ne jouent pas plus que ça au football, avec les qualités individuelles, avec la qualité de la formation. Franchement, ça m'étonnera toujours, alors qu'on voit souvent dans les championnats étrangers quelques clubs qui, justement, faute de moyens, font de la formation, vont chercher des jeunes intelligemment, et puis réussissent. Donc pourquoi pas tous ces clubs
Voilà. C'est là où moi je vais rejoindre Eric sur ce qu'il disait tout à l'heure sur l'intérêt de la Ligue 3. Moi, en tant qu'éducateur, je vois plus intérêt à regarder la Ligue 3 parce que je pense que justement ce sera ce tremplin pour ces jeunes joueurs issus des centres de formation qui auront vraiment cette capacité de se faire médiatiser. Donc on pourra voir un petit peu les pépites des clubs, etc. Plutôt qu'une Ligue 2 où on sait la puissance financière en termes de salaire pour la Saint-Etienne, logiquement qui vont jouer les premières places, etc. C'est pas gagné d'avance, mais enfin...
Il y aura moins de place pour la jeunesse, c'est ce qu'on
veut
dire.
Ouais, c'est ça. Donc moi, je trouve cet intérêt pour la Ligue 3, pour tous ces jeunes joueurs-là, c'est vraiment très intéressant.
Allez, on note toutes ces analyses et on se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie. On parlera bien évidemment de la Ligue 1 qui n'a pas encore repris, mais c'est pour bientôt, c'est d'ici la fin du mois. À de suite.
RRB, la pub.
Le tout info continue avec Toyota. Le tout nouveau Toyota RAV4 hybride est à découvrir chez Toyota, à Ducos et à Kone.
Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Allez, seconde mi-temps de cette semaine sportmédable. Après la Ligue 3 Betclic, la Ligue 2 BKT, place à la Ligue 1 McDonald's. Ils ont trouvé des noms à dormir debout, McDonald's pour la Ligue 1.
Ça fait peur. Sans rien.
Malgré ça, le championnat de France reprendra dans quelques jours à la fin du mois. La première question que j'ai envie de vous poser, hein, est-ce qu'encore une fois le Paris Saint-Germain va être au-dessus des autres? Valérie Hamel, avec votre joli pull du PSG, vous n'allez pas me dire non?
Évidemment, ça fait bon nombre d'années qu'on ne joue plus dans la même catégorie avec les autres clubs. Donc il y a peu de chances que le PSG s'écoule cette année, notamment qu'ils ont, ils ont l'air de faire un recrutement qui tient assez bien la route pour augmenter la profondeur de banc. Donc,
léger recrutement, on n'est pas sur des superstars.
Oui, mais recrutement intelligent. Ça fait depuis deux ans maintenant. Voilà, c'est ça. Ça fait deux ans maintenant que les volontés de recrutement ont changé et ne plus miser sur des stars à haut salaire. Donc, effectivement, pour moi, pour l'instant, c'est un recrutement assez intelligent qu'ils sont en train de faire.
Alors, ils sont double champion d'Europe. Il n'y a pas de raison qu'ils chamboulent tout. Par petites touches, il y a quelques joueurs, enfin, peu qui sont partis. Ils vont peut-être perdre Barcola. C'est envisageable.
Donc, ça fera une belle rentrée d'argent.
Voilà, ça dépendra de deux ou trois départs par petites touches. Et puis, il n'y a pas photo entre Paris et les autres clubs de Ligue 1.
Aussi, je peux faire la transition. Paris qui fait un très bon recrutement. Donc, pour l'instant, Marseille
vend. Voilà. Et c'est déjà plutôt une bonne nouvelle.
D'arriver à vendre,
on va dire, plutôt correctement. Ça va dégraisser la masse salariale de manière plus que conséquente. Donc ça, c'est quand même bien s'ils veulent repartir du bon pied. Et puis, ils ont fait surtout une chose très intelligente, c'est qu'ils ont été chercher Bruno Genesio. Voilà. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Voilà, qui va faire, je pense, et j'en suis même convaincu, du très bon travail. Alors, ça va être peut-être un peu difficile cette année. Et puis, s'ils travaillent bien, ils se prépareront pour la saison suivante. Alors évidemment, ils n'embêteront pas le Paris Saint-Germain, malheureusement, et tant mieux si je me trompe.
Et justement, sur qui pourrait embêter le Paris Saint-Germain, on a vu le RC Lens l'an dernier qui a tenu une bonne partie de la saison. Bastien Antoine, est-ce que d'ores et déjà, Lens peut prétendre à cette place encore une fois? Est-ce qu'il y a d'autres équipes? Monaco peut se relancer ou pas? Est-ce qu'on attend Lille, Lyon?
Ben, moi, j'ai regardé un petit peu les grosses équipes, les grosses équipes qui sont censées pouvoir gêner le Paris Saint-Germain. On aimerait tous avoir un championnat comme ça, hein, où le Paris Saint-Germain, c'est sûr qu'il est très fort, mais que les autres équipes tiennent un peu leur rang, les autres gros clubs. Malheureusement, très souvent, c'est ça le problème de la Ligue 1, c'est que le Paris Saint-Germain tient à peu près son rang, mais les autres clubs vivent des crises pendant l'année, et puis finalement, il n'y a pas trop de concurrence pour le Paris Saint-Germain, même si Lens a fait une très très belle saison l'année dernière. Mais le RC Lens a quand même perdu pas mal de joueurs à l'intersaison,
Sangare et l'entraîneur,
et surtout tout leur axe central. Sarr qui joue en défense centrale, Sangaré qui est parti pour 48 millions en Angleterre, Thomasson qui est parti à Rennes et Alain Saint-Maximin qui est aussi reparti. L'année dernière, ils avaient beaucoup de joueurs en prêt, donc il y en a beaucoup qui sont partis. Leur entraîneur, alors qu'ils avaient fait Pierre Sage, qu'ils avaient fait une super saison, qui est parti aussi. Ils vont devoir gérer la Ligue des Champions et des matchs en semaine.
Je pense que Sachant que cette année, il n'y aura que des matchs en week-end en Ligue 1, il n'y aura pas de matchs en semaine. Pour arranger, j'imagine, le calendrier aussi, mais il y aura quand même cette question de la Ligue des Champions pour Lens.
Du coup, je pense que pour Lens, ça va être dit. Autant d'autres clubs, comme peut-être Lille, arrivera à gérer un petit peu cette Ligue des Champions ou même la Coupe de l'UEFA, enfin des compétitions en semaine, parce que tout d'un coup, il faut avoir beaucoup plus d'effectifs si on veut être compétitif. Mais Lens, quand même, ils ont perdu quand même pas mal de bons joueurs et pas mal de joueurs clés. Par exemple, je regardais Lille. Lille, ils ont quand même gardé dans leur équipe leur axe central du milieu de terrain, c'est Benjamin André et Boadi, le joueur qui est convoité un petit peu partout. Donc, mine de rien, ça donne un socle quand même qui
espérons qu'il le garde quand même, voilà, parce que c'est pas fini.
À tout moment, il peut partir, mais mine de rien, ça permet
de le garder.
Ça permet d'envisager la, la prochaine saison avec plus de solidité. Quoi. On a juste à récupérer des joueurs de complément, mais au moins déjà on a la base qui est assez solide.
Déjà on aura une petite idée de ce que ça peut donner, puisque le Paris Saint-Germain jouera la Super Coupe d'Europe dans la semaine contre Aston Villa. Il y aura aussi un match la semaine prochaine, le Trophée des Champions entre Lens et le Paris Saint-Germain. Ce sera lundi matin. Antoine Perra de Carvalho, là aussi le Paris Saint-Germain au-dessus, mais... malgré tout, sur ces deux premiers matchs officiels, on peut déjà voir ce que ça peut donner.
Oui, oui, totalement. Je pense que déjà, ils vont se mettre un peu au haut niveau en faisant le match de Supercoupe. Et puis affronter Lens directement, oui, ça va donner une trajectoire à leur championnat. Je pense qu'il n'y aura pas photo, hein. Ils vont encore être très largement au-dessus. Je ne sais même pas vraiment quelle équipe pourrait rivaliser avec eux cette saison. J'ai vu Lyon sur leur premier match de barrage aller, vraiment pas convaincant. Marseille qui est en pleine refonte, qui a beaucoup de départs et peut-être d'autres encore départs de certains
d'ici
cadres.
D'ici le début du championnat, effectivement.
Donc, ouais, je pense que Paris Saint-Germain va s'en sortir facilement, avec un très bon recrutement encore cette année aussi. Voilà.
Bastien Antoine.
Si je peux me permettre d'intervenir justement par rapport à cette histoire de refonte. Moi, j'ai un chiffre qui est quand même assez hallucinant. Cette année-là, sur les 16 clubs qui sont restés en Ligue 1, il n'y a que 4 clubs qui ont le même coach que l'année dernière. C'est-à-dire qu'il y a 12 clubs qui ont changé de coach à l'intersaison.
Est-ce que vous avez les 4 clubs ?
Je les ai dans les yeux. Allez. Je peux te dire que le Paris Saint-Germain et le Havre avaient déjà le même entraîneur en début 2025. Et il y a juste Lyon et Rennes qui, eux, en début 2026, qui ont changé à l'intersaison l'année dernière. Ça veut dire qu'il n'y a que deux clubs qui débutent l'année avec le même coach que l'année précédente, ce qui est énorme. Et en termes de continuité, c'est vraiment trop dur de réussir à être compétitif quand déjà on ne choisit pas ses joueurs, quand on ne recrute pas ses joueurs, quand on essaie de construire quelque chose. On ne construit pas ça en 6 mois ou en 1 an, c'est trop dur. Donc c'est pour ça que le Paris Saint-Germain, finalement, aujourd'hui, ils sont au-dessus du lot. Peut-être qu'il y aura une équipe qui arrivera à les embêter un petit peu, mais sur la durée, ça sera trop dur pour les clubs s'ils n'arrivent pas à mieux se structurer sur la longueur.
Bastien, Antoine disait construire une équipe en 6 mois, 1 an, ce n'est pas assez. Vous, en tant que sélectionneur, comment on imagine construire une équipe en si peu de temps ?
C'est très compliqué. Maintenant, on le sait que de toute façon, les entraîneurs sont le premier fusible qu'on fait sauter une fois que les résultats ne sont pas présents. Tout ça, c'est uniquement financier. Donc, c'est vrai que, comme le dit Bastien, 6 mois, c'est trop peu. C'est trop peu, hein. Et même quand les résultats peuvent être là, souvent ils sautent quand même, hein. On se rappelle de l'arrivée des Qataris au Paris Saint-Germain. C'était Antoine Comboiré qui était à la tête du Paris Saint-Germain. Il était premier en décembre et pourtant il a été remplacé dans la foulée. Donc c'est même en 6 mois, c'est trop compliqué. Effectivement, s'il choisit même pas son équipe, si on lui laisse pas le temps, c'est quand même des joueurs professionnels en face, des gens qui connaissent leur métier. S'il n'y a pas de temps, c'est trop compliqué.
Justement, je m'étais noté une petite question à vous poser pour couper un petit peu cette émission. Quel entraîneur vous voyez être le virant premier cette année ? Parce que, et vous voyez, on est venu, le sujet est venu tout seul, mais je m'étais posé la question, Bastien Antoine.
C'est super dur. Étant donné qu'il y en a 12 nouveaux, ça serait difficile. Je regarde parmi les
anciens.
Ben moi, je regarde plutôt parmi les grosses équipes, parce que dans les grosses équipes, ils vont tout de suite vouloir avoir des résultats. Donc, du coup, c'est peut-être là qu'ils vont partir. Philippe Louis à Monaco, j'espère que ce sera une bonne recrue. Enfin, au moins, en tout cas, j'ose espérer que ce soit un bon coach. Frank Heidz à Rennes, bon, c'est quand même un bon coach aussi. Bruno Genesio à Marseille, c'est un
bon
coach.
Oui, mais s'il n'a pas les mêmes résultats que l'an dernier, est-ce que ça pourrait mais pas aller vite pour lui aussi?
Peut-être, mais disons que parfois il y a des, on met en place des coachs et on a l'impression que c'est un peu farfelu. Peut-être que c'est pour le nom ou quelque chose comme ça. Et au bout de, un moment, en ayant tout le respect que j'ai pour lui, un moment Thierry Henry qui arrive à Monaco. Eh ben, 4 matchs après, il n'était plus là. Patrick Vieira qui est arrivé à Nice, il n'est pas resté très longtemps non plus. Et donc du coup, là peut-être à Lille, il y a David Ancelotti. On ne sait pas trop d'où il vient. J'ai regardé un petit peu.
On connaît son père quand même, mais.
C'est son père, je ne sais pas que c'est son père.
Mais pour le reste, oui.
Non, David Ancelotti, si je ne dis pas de bêtises, c'était l'adjoint de son père dans la sélection du Brésil. Et du coup, l'année dernière, il entraînait au Brésil, il entraînait Sao Paulo. C'est vrai que de Sao Paulo à Lille, c'est peut-être différent le championnat. Donc, si vraiment ils commencent très très mal, peut-être qu'ils le mettront de côté, je sais pas.
Autre question pour vous, on va pas parler du champion, on l'a déjà tous en tête, le Paris Saint-Germain, mais plutôt les équipes qui risquent de redescendre. Est-ce que Le Havre, Troyes, Le Mans, c'est des équipes, Valérie Hamel, qui risquent de redescendre assez rapidement?
Juste pour revenir sur les entraîneurs, oui. Moi, je suis pas sûr que Genesio saute, parce que a priori, sur le recrutement qu'ils vont essayer de mettre en place, il y aura un salary cap qui va être mis. Donc c'est pas forcément qu'ils ont des ambitions à la baisse, mais ils savent très bien qu'ils sont sur une période de transition. Donc qui veut période de transition dit maintenir le coach pour que d'ici 2-3 ans, il y ait les résultats qui arrivent, les résultats escomptés qui arrivent. Maintenant, pour les clubs qui risquent de faire le yo-yo, c'est très compliqué parce que encore une fois, il y a un gap entre la Ligue 1 et la Ligue 2 en termes de salaire, en termes de football, en termes de d'infrastructure, etc. Mais c'est vrai que des équipes comme Troyes ou même Brest, ça va être compliqué pour eux.
Hein. Éric Figuère, en quelques mots pour vous laisser un peu de temps pour les coups de cœur juste après.
Oui, effectivement, Le Mans et Brest, pour moi, vont avoir beaucoup de difficultés. Mais à mon avis, ils ne seront pas les seuls. Donc ça va beaucoup dépendre du début de championnat, comme c'est souvent le cas malheureusement. Au bout de 5 journées, les clubs qui n'auront pas gagné un match, alors c'est une lapalissade que de le dire, hein, mais ce sera encore vrai. Moi, ce que je voulais juste dire, c'est que on prend souvent l'exemple du grand FC Barcelone et de l'identité de jeu qui est pratiquée à tous les échelons. Et ils prennent à tous les échelons les entraîneurs qui correspondent à la vision qu'ils se font du jeu. Et ensuite, pour l'équipe première, ils cherchent un entraîneur qui correspond à ça. Je crois que beaucoup de clubs, alors évidemment sans atteindre ce niveau-là de performance, mais beaucoup de clubs devraient y réfléchir un peu mieux sur cette vision qu'ils ont du football, et puis d'amener la philosophie de jeu jusqu'à l'équipe première, et de savoir choisir des entraîneurs qui correspondent plus à ces philosophies, sans forcément avoir besoin de grands noms, et sans forcément besoin d'avoir beaucoup d'argent.
Et après ce conseil, Éric Figuère, on va vous laisser la parole pour le premier coup de cœur, coup de gueule de la soirée, comme ça vous montrez l'exemple au nouveau.
Alors, ce ne sera pas un coup de cœur ce soir, ce sera un coup de gueule. Alors, on en a beaucoup parlé pendant la Coupe du Monde, hein, mais il fait encore l'actualité, c'est notre ami Gianni Infantino, voilà, qui pour moi est devenu aujourd'hui la plaie du football. Voilà, il nous a inventé encore une Coupe du Monde. Alors, pour le coup, j'étais critique sur les 48 équipes. Finalement, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Mais n'oublions pas qu'il veut maintenant monter à 64. Hein, alors bientôt à 72, à 80 et à 100, donc ça ne voudra plus rien dire du tout. Et puis évidemment, il y a tout, il y a les problèmes donc financiers, hein, puisqu'il a voulu vendre une partie de la Coupe du Monde. On a vu ce que ça a donné avec les pauses fraîcheurs, qui étaient là uniquement pour passer de la publicité. Donc pour moi, ce monsieur doit partir. Il est lâché, malheureusement pas assez, mais pour moi c'est un gros coup de gueule parce qu'il faut qu'il s'en aille.
Merci, c'est un coup de gueule entendu et on va se tourner du coup
vers... Oui, il s'en fiche hein, parce qu'il attend pas Éric Figuère.
Vers Bastien Antoine pour le prochain coup de cœur, coup de gueule.
Ouais, moi ça va être un coup de cœur. Un coup de cœur avec l'annonce du... Moi qui m'occupe du football un peu calédonien, le championnat féminin en province sud qui va se lancer, qui va permettre à 6 équipes de féminines de province sud d'avoir accès à une compétition. Ça faisait longtemps qu'il y avait plus beaucoup d'équipes de féminines en Calédonie. Il n'y en avait que six sur le territoire avec le championnat fédéral. Et là, du coup, c'est de nombreuses nouvelles filles qui vont avoir accès au foot. Et je trouve ça, c'est une très bonne chose. Il y a des filles de Tio, les filles de Beleb, de Boulou Paris. Donc c'est vraiment super. Et j'espère que dans le Nord aussi, on en aura aussi. Parce que malheureusement, limiter les compétitions, cas des compétitions fédérales, c'est dommage. Parce que souvent, les filles, elles n'osent pas s'y investir parce qu'il y a trop de trajets à faire. Et donc là, elles vont pouvoir s'amuser en faisant maximum une heure de route. Donc c'est super.
Antoine Perra de Carvalho, votre coup de cœur.
Moi, mon coup de cœur, ça va être sur le football local, avec la victoire de l'Horizon Passo hier contre l'AS Lossy. Horizon Passo qui a eu un championnat assez compliqué et qui là se relève grâce à la coupe, donc ça peut être intéressant de les voir en demi déjà et puis voir la suite de la coupe s'ils vont réussir à aller jusqu'au bout. Mais en tout cas, gros coup de cœur pour eux, ça fait plaisir de les voir
à ce niveau-là et en demi-finale de Coupe de Calédonie. Le dernier coup de cœur, coup de gueule de la soirée pour Valérie Hamel.
Moi, ce sera un coup de cœur Deux coups de cœur même. D'abord le premier, pour la nouvelle mandature de la Fédé qui a, à mon sens, cœur de faire changer les choses pour que le football calédonien s'améliore et progresse. Donc voilà. Et ensuite, effectivement, pour revenir sur cette Coupe de Calédonie, on a quand même deux clubs de PH qui sont en demi-finale. Donc bravo à eux, donc gros coup de cœur à ces équipes-là.
Qui peuvent donc sur une compétition aller titiller les équipes de Super League. Mmh. Et ça c'est super, on suivra donc avec intérêt les prochains matchs sur le territoire, mais aussi en métropole, la Ligue 1 qui reprend bientôt, vous l'avez entendu, 17h45, la fin de ce magazine Sport Midable. Place tout de suite Info Soir avec Jean-François Bonin.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine Sport Midable sur Radio Rythme Bleu.